Chapitre 62, une œuvre pour aujourd'hui. À mesure que les jours s'écoulent, les jugements de Dieu s'abattent de plus en plus sur la terre. Les incendies, les inondations, les tremblements de terre annoncent le retour prochain du Sauveur. Nous approchons de la grande crise de l'histoire de ce monde, alors que tous les événements seront observés avec un intense intérêt et une appréhension indicible. Les jugements de Dieu se suivront en succession rapide. Incendies, inondations, tremblements de terre, guerre et effusion de sang. Oh, si le monde pouvait connaître le jour de sa visitation! Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore entendu la vérité pour notre époque, et que l'Esprit de Dieu s'efforce d'influencer. Le temps des jugements destructeurs est aussi le temps de grâce pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître la vérité. Le Seigneur les considère avec tendresse. Son cœur compatissant est touché. Son bras est encore étendu pour sauver, alors que la porte se ferme sur ceux qui refusent d'entrer. La miséricorde de Dieu se manifeste dans sa longue patience. Il diffère ses jugements afin que le message d'avertissement parvienne à tous. Oh, si chaque adventiste comprenait vraiment la responsabilité qui repose sur lui en ce qui concerne la proclamation du dernier message de miséricorde, quelle œuvre magnifique s'accomplirait! Considérez les villes. Comme elles ont besoin de l'Évangile. Des ouvriers du Seigneur, remplis de zèle, devraient s'y rendre pour l'annoncer à leurs nombreux habitants. Ce besoin m'a été présenté pendant plus de 20 ans. Qui se sent poussé à faire ce travail? Quelques-uns seulement. L'attention qu'on lui accorde est bien peu de choses si l'on songe aux besoins immenses et aux occasions innombrables. Dans les villes de l'Est. Il m'a été montré que le message devait être prêché à nouveau avec puissance dans les villes de l'Est des États-Unis. Dans plusieurs de ces villes, les messages du premier, du second et du troisième ange ont été annoncés en 1844. Mais c'est à nous, serviteurs de Dieu, qu'a été confié spécial élément le message du troisième ange qui complète les deux premiers et prépare un peuple pour la venue du roi. Nous devons apporter tous nos soins à faire connaître la vérité à ceux qui sont disposés à l'écouter, et ils sont en grand nombre. Dans toutes les villes, le Seigneur a des âmes sincères qui désirent savoir où est la vérité. Le temps est court. Dieu veut que nous prenions en considération tout ce qui concerne sa cause, et que le message soit proclamé avec tout le zèle dont sont capables ses serviteurs. Il ne faut rien tolérer qui puisse entraver ses progrès. Annoncez le message, telles sont les paroles qui m'ont été dites maintes fois. Dis à mon peuple, m'a-t-il été ordonné, qu'il doit proclamer à nouveau le message là où il l'a été en premier lieu, et où des églises se sont décidées pour la vérité, la puissance de Dieu s'y étant manifestée d'une manière remarquable. Pendant des années, nos pionniers ont lutté contre la pauvreté et enduré de nombreuses privations pour faire honneur à la vérité. Ils ont travaillé inlassablement, avec de faibles moyens, et Dieu a béni leurs humbles efforts. Le message a progressé merveilleusement dans l'Est. Puis il s'est étendu vers l'Ouest jusqu'à ce que des centres d'influence aient été créés en de nombreux endroits. Il se peut que nous n'ayons plus à subir aujourd'hui les mêmes privations. Mais des conditions plus favorables ne devraient pas diminuer notre zèle. Le Seigneur nous ordonne maintenant de proclamer à nouveau le message avec puissance dans l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Ne répondrons-nous pas comme un seul homme à son appel? Ne prendrons-nous pas les dispositions nécessaires pour envoyer des messagers dans ces champs de travail, et pour les soutenir généreusement? Des prédicateurs ne se rendront-ils pas dans les grandes agglomérations pour y proclamer le message d'avertissement? N'est-ce pas à nos fédérations d'entreprendre cette œuvre? Lorsque les ouvriers du Seigneur parleront de la vérité, la pratiqueront, prieront pour qu'elle se répande, Dieu touchera les cœurs. S'ils travaillent avec toute la force que Dieu leur donne, humblement, et se confiant entièrement en lui, leurs travaux porteront des fruits. Les efforts résolus pour faire connaître la vérité présente seront secondés par de saints anges, et de nombreuses âmes seront sauvées. Générosité dans le travail missionnaire. Les États du Sud doivent aussi avoir connaissance de la vérité pour notre époque. Ne dites pas, nos maisons d'édition et nos églises ont besoin qu'on les soutienne davantage. Tous les fonds sont nécessaires pour continuer l'œuvre commencée. On a vu des chrétiens refuser des subventions à certaines branches d'activités missionnaires, par crainte d'y absorber des ressources qu'ils préféraient destiner à d'autres entreprises. Mes frères, il vous faut une plus grande mesure de l'Esprit du Christ. Que votre idéal soit plus élevé, et ceux qui sont nouvellement convertis comprendront qu'ils ont un travail important à accomplir. Ainsi, les ressources dont l'œuvre a besoin s'accroîtront sans cesse. Attendrons-nous que les habitants des villes nous disent, « Si vous venez nous annoncer la vérité, nous vous soutiendrons de telle et telle manière ?» Que savent-ils de notre message ? Acquittons-nous du devoir qui nous incombe en avertissant ces gens qui sont sur le point de se perdre. Le Seigneur désire que notre lumière brille devant les hommes et que le Saint-Esprit puisse communiquer la vérité au cœur sincère. Si nous accomplissons ce travail, nous verrons l'argent affluer dans nos trésors, et nous en aurons suffisamment pour donner à notre œuvre une extension beaucoup plus grande. Des riches accepteront la vérité et feront part de leurs biens pour l'avancement du règne de Dieu. Il m'a été montré qu'il y a de grandes richesses dans les villes où l'on n'a pas encore travaillé. Des personnes s'intéressent aux choses de Dieu. Allez à elles. Enseignez-les, à l'instar du Christ. Présentez-leur la vérité, elles l'accepteront. Et si elles sont vraiment converties, leurs richesses seront consacrées au service du Seigneur, et on verra une augmentation de ressources. Oh, puissions-nous voir les besoins de ces villes comme Dieu les voit. Dans un temps comme le nôtre, toute main doit trouver son emploi. Le Seigneur vient. La fin est proche, elle est à la porte. Encore un peu de temps, et nous ne pourrons plus travailler librement comme aujourd'hui. Des scènes terribles sont devant nous. Accomplissons rapidement ce qui nous reste à faire. Un mobile pour servir. Récemment, je me réveillais pendant la nuit, et je vis les souffrances que le Christ endura en faveur des hommes. Son sacrifice, les moqueries et les insultes dont il fut l'objet de la part des méchants, son agonie à Gethsémané, la trahison et la crucifixion, tout m'a été présenté d'une manière frappante. Je vis le Sauveur au milieu d'une grande foule. Il cherchait, par ses enseignements, à faire impression sur les esprits. Mais il était méprisé et rejeté. On l'accablait d'injures et d'ignominies. Ce spectacle me jeta dans une grande angoisse. Je demandais, que peut-on faire pour cette foule? N'y a-t-il pas là une âme qui renoncera à la haute opinion qu'elle a d'elle-même pour chercher le Seigneur comme un petit enfant? N'y aura-t-il personne qui, le cœur brisé, se présentera devant lui par la repentance et la confession? L'agonie du Christ au jardin de Gethsémané me fut présentée alors que la coupe mystérieuse tremblait dans ses mains. « Mon Père, disait-il, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Tandis qu'il suppliait son Père, de grosses gouttes de sang tombaient de son visage sur le sol. Les puissances des ténèbres s'abattaient sur le Sauveur pour le terrasser. S'étant relevé, il alla vers ses disciples, auxquels il avait recommandé de veiller et de prier, de peur qu'ils ne succombent à la tentation. Il voulait voir s'ils comprenaient son agonie. Il avait besoin de leur sympathie, mais il les trouva endormis. À trois reprises il se rendit auprès d'eux, et chaque fois il les vit dans le même état. Le Sauveur prononça aussi trois fois cette prière, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » C'est ici que la destinée d'un monde perdu trembla dans la balance. Si Jésus avait refusé de boire la coupe, l'humanité aurait été perdue pour l'éternité. Mais un ange encouragea le Fils de Dieu à boire cette coupe amère. Combien peut se rendre compte que toutes ces souffrances ont été endurées pour eux personnellement? Combien peut dire, « C'est pour moi que cela a été fait, afin que je puisse former un caractère pour la vie éternelle. » Pendant que ces scènes se déroulaient devant moi d'une manière si frappante, je pensais, il ne me sera jamais possible d'exposer ce sujet dans sa réalité. En effet, ce que je viens de dire est bien faible comparé à ce qui m'a été montré. En pensant à cette coupe dans la main tremblante du Sauveur, qu'il aurait pu refuser de boire et laisser le monde périr dans ses péchés, j'ai fait le vœu de consacrer toutes mes énergies à lui gagner des âmes. Le Christ descendit sur la terre pour y souffrir et mourir afin que par la foi en lui et l'appropriation de ses mérites nous puissions devenir les collaborateurs de Dieu. Son dessein était qu'après être monté au ciel où il intercéderait en faveur des hommes, ses disciples continuent l'œuvre qu'il avait commencée. Les chrétiens ne manifesteront-ils pas un intérêt tout particulier dans la proclamation de l'Évangile en faveur de ceux qui sont dans les ténèbres? Il en est qui sont prêts à se rendre aux extrémités de la terre pour y porter la vérité. Mais le Seigneur exige que tous ceux qui connaissent cette dernière s'efforcent de la répandre autour d'eux. Si nous ne sommes pas disposés à consentir de réels sacrifices pour sauver les âmes qui sont sur le point de périr, comment serons-nous jugés dignes d'entrer dans la cité de Dieu? Chacun a une œuvre à accomplir. Je sais que plusieurs sont dans les conditions voulues par le Christ, et que leur unique pensée est de proclamer la vérité présente. Mais mon cœur saigne lorsque j'en vois un si grand nombre qui se contentent d'une vie chrétienne appauvrie, et qui leur coûte si peu. Leur conduite démontre que pour eux le Christ est mort en vain. Si vous ne considérez pas comme un honneur de participer aux souffrances du Christ. Si le souci des âmes qui vont périr ne vous accable pas. Si vous n'êtes pas prêt à pratiquer une stricte économie pour soutenir l'œuvre de Dieu, alors il n'y aura pas de place pour vous dans le royaume des cieux. Nous devons constamment pratiquer le renoncement et participer aux souffrances du Christ. Il faut que l'Esprit de Dieu repose sur nous, et ne cesse de nous conduire dans la voie du sacrifice. Préparez-vous. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. À sa venue, le Christ demandera chaque talent qu'il nous a confié, et il en exigera les intérêts. Par son humiliation et son agonie, par sa vie de souffrance et sa mort ignominieuse, il a payé les services de ceux qui se réclament de son nom et se disent ses disciples. Tous ont le devoir impérieux de mettre à contribution leurs facultés pour lui gagner des âmes. Vous ne vous appartenez point à vous-même, dit saint Paul. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu par une vie de service qui fera passer hommes et femmes du péché à la justice. Nous avons été rachetés au prix de la vie du Christ, et, par un fidèle service, nous devons rendre au Seigneur ce qui lui revient. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de gaspiller nos énergies et nos talents à des entreprises mondaines. Serons-nous absorbés à servir le monde, à nous servir nous-mêmes, au point d'en sacrifier la vie éternelle et le bonheur des cieux? Nous ne saurions y consentir. Employons donc tous nos talents à l'œuvre de Dieu. Ceux qui acceptent la vérité doivent, par leurs efforts, augmenter le nombre des hommes et des femmes qui seront les collaborateurs de Dieu. Enseignons et éclairons les âmes de manière qu'elles puissent servir Dieu intelligemment, et croître continuellement dans la connaissance de la justice. Le ciel tout entier s'intéresse à l'œuvre que le Christ est venu inaugurer ici-bas. Des êtres célestes préparent la voie pour que la vérité pénètre dans les endroits ténébreux. Les anges sont prêts à entrer en communication avec ceux qui entreprendront le travail qui nous a été assigné depuis des années. N'allons-nous pas manifester notre intérêt en cherchant les moyens d'évangéliser les villes? Bien des occasions ont été perdues pour avoir négligé de nous mettre à l'œuvre immédiatement et avec foi. Le Seigneur dit, « Si vous aviez cru au message que je vous ai envoyé, vous n'auriez pas manqué d'hommes ni de fonds pour les entretenir. » La venue du Christ est proche, à la porte. Le temps qui nous reste pour travailler est court. Hommes et femmes périssent. Les croyants qui ont reçu de grandes lumières, dit l'ange, ne devraient-ils pas collaborer avec le Seigneur qui a envoyé son Fils dans le monde pour donner aux hommes le salut? Ceux qui ont connu la vérité règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, n'auront-ils que peu d'estime pour le Christ qui vint sur la terre afin de faire participer tout croyant à sa divine puissance? C'est ainsi que la divinité du Sauveur devait se déployer pour le salut de l'humanité, et que l'intercession de notre souverain sacrificateur devenait efficace devant le trône de Dieu. Ce plan a été élaboré au ciel. Ceux qui ont été rachetés à un tel prix ne seront-ils pas appréciés un si grand salut? Le Seigneur ne peut approuver un peuple qui, tout en faisant profession de piété et prétendant croire à sa venue prochaine, néglige d'avertir les villes touchant les jugements qui vont frapper la terre. Ceux qui agissent ainsi auront à rendre compte de leur négligence. Le Christ a donné sa vie précieuse pour sauver les âmes qui périssent dans leurs péchés. Refuserons-nous d'accomplir l'œuvre qui nous a été assignée, de collaborer avec Dieu et avec les anges? Des milliers agissent ainsi. Ils négligent de devenir un avec le Christ, de manifester dans leur conduite par des actes de justice son grand sacrifice. C'est pourtant l'œuvre assignée aux hommes par la mort du Fils de Dieu. Sachant cela, pouvons-nous rester indifférents? J'adresse un appel à nos frères pour qu'ils se réveillent. Les facultés spirituelles s'affaiblissent et finiront par disparaître si elles ne sont pas employées à gagner des âmes au Sauveur. Quelle excuse pourrions-nous présenter, si nous négligions l'œuvre grande et belle pour laquelle le Christ a donné sa vie? La vie que nous devons vivre. Nous ne pouvons vouer les quelques jours qui nous restent à passer sur la terre à des choses vaines et insignifiantes. Humilions-nous donc devant le Seigneur, afin de lui gagner des âmes, et que dans notre conduite se produise une réforme qui convaincra le monde. Que notre vie soit cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque nous rechercherons le Seigneur comme de petits enfants, lorsque nous cesserons de relever les défauts de nos frères et de ceux qui s'efforcent de s'acquitter fidèlement des devoirs qui leur incombent dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous mettrons nos cœurs en règle avec le Seigneur, alors seulement il pourra nous employer à glorifier son nom. Nous devons tous être prêts à faire mourir le moi, si nous voulons que le Seigneur accepte notre travail. N'oublions pas que la profession de foi n'est rien. Ce qui compte, c'est la vérité qui pénètre dans le cœur. La puissance rénovatrice de Dieu doit s'emparer de nous pour que nous puissions comprendre les besoins d'un monde qui se perd. Le message que je suis chargé de vous annoncer est celui-ci, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Tenez vos lampes prêtes et que la lumière de la vérité resplendisse dans les carrefours et le long des haies. Annoncez au monde que la fin de toute chose est proche. Frères et sœurs, cherchez le Seigneur tandis qu'il se trouve. Le temps vient où ceux qui ont gaspillé leur temps, et n'ont pas profité des occasions, en auront un amer regret. Dieu vous a donné la faculté de raisonner. Il désire que vous vous en serviez dans le travail qu'il vous a confié. Il veut que vous vous rendiez dans nos églises pour y exercer votre zèle. Organisez aussi des réunions pour ceux du dehors, afin qu'ils puissent connaître les vérités du dernier message d'avertissement. Vous serez reçus avec joie dans certains endroits, où des âmes vous seront reconnaissantes d'être venues à leur secours. Que le Seigneur vous aide à vous donner à cette œuvre comme jamais auparavant. Élevez plus haut votre idéal. Comment travailler auprès de ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit le Seigneur. Et il ajoute, voici. Je suis avec vous tous les jours. Ce qu'il nous faut, c'est une foi solide, une foi qui nous fasse proclamer devant le sépulcre vide de Joseph d'Arimathée que le Sauveur est vivant. C'est lui qui nous précédera et travaillera avec nous. Dieu accomplira l'œuvre, si nous lui fournissons les instruments. Il nous faut prier davantage et être moins incrédules. Élevons plus haut notre idéal devant le monde. Souvenons-nous que le Christ est toujours à nos côtés quand nous proclamons aux captifs la liberté et que nous donnons le pain de vie aux âmes affamées. Lorsque nous comprendrons l'urgence et l'importance de notre œuvre, le salut de Dieu sera révélé d'une manière remarquable. Que le Seigneur nous aide à revêtir l'armure du chrétien et à manifester un zèle ardent, sachant que les âmes valent la peine d'être sauvées. Convertissons-nous à nouveau. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour attendrir nos cœurs afin de ne pas montrer de la dureté dans notre travail. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse s'emparer entièrement de nos cœurs. Conduisons-nous comme des enfants de Dieu qui cherchent conseil auprès de lui, et sont prêts à suivre ses plans. Dieu sera glorifié par nous, et ceux qui verront notre zèle pourront dire, « Amen, Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion. Ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Appréciez-vous le sacrifice du calvaire au point de tout subordonner au salut des âmes? Le désir ardent de sauver les pécheurs qui caractérisa la vie du Sauveur devrait caractériser aussi celle de ses vrais disciples. Le chrétien ne vit pas pour lui-même. Il se consacre corps et bien au service du Maître. Il est animé du désir inexprimable de lui gagner des âmes. Ceux qui n'éprouvent pas ce désir devraient penser davantage à leur propre salut. Qu'ils demandent à Dieu de leur donner l'esprit du service. Si les chrétiens voulaient agir de concert, marchant de l'avant comme un seul homme, sous la direction de l'unique puissance, et n'ayant qu'un seul but, ils ébranleraient le monde.